décryptualité. Le podcast qui décrypte l'actualité des libertés numériques. Semaine 43, salut Manu.
Salut Nico.
Salut Nolwenn.
Salut Luc.
Sommaire.
Ouais, on a un joli sommaire avec des sujets un peu variés.
Alors, siècle digital, Royaume-Uni, les données biométriques d'un million de personnes ont été exposées, un article de Valentin Simino.
Ça ne touche pas tout à fait au logiciel libre, il faut bien le dire, donc je pense que je vais ne plus mettre ce genre d'article, ça arrive trop souvent.
C'est dommage, c'est rigolo quand même.
Oui, ça reste rigolo, surtout qu'on a parlé de reconnaissance faciale, de données qui étaient utilisées par l'État français ou qui allaient être utilisées par l'État français. Et on faisait remarquer à chaque fois, attention, si ces données sont volées, et généralement les institutions nous disent, mais ne craignez rien, elles ne seront jamais volées.
Elles sont sécurisées.
Carrément, bah là, bah non, elles n'étaient pas bien sécurisées. Donc il y a un million de données biométriques en Angleterre qui étaient exposées sur Internet. On ne sait pas qui en a fait quoi, mais en tout cas, elles étaient accessibles à différents hackers. Et c'est gênant parce qu'on ne peut pas changer facilement ces données biométriques.
Numérama, un ordinateur par classe, logiciel obsolète, l'école est-elle à la traîne en matière de numérique ? Un article de Perrine Signoret.
L'école et les moyens de l'école, on se doute bien que c'est déjà un sujet compliqué. Mais en plus, quand on commence à parler d'informatique, de logiciels, de matériel, eh bien là, c'est encore plus techniquement mal barré. Il y a eu des plans qui ont été lancés par les différents gouvernements et généralement, ça se révèle infructueux.
Ben, Microsoft ira bien faire un petit cadeau à la France, non ?
Oui, puisque c'était ce qui s'était passé pour leur permettre de rentrer dans le ministère de l'Éducation. Et ils ont des accords avec différentes branches des administrations. C'est très embêtant, mais on ne peut pas y faire grand-chose, sinon constater que ça ne marche pas.
Voilà, bon, rappelons que l'éducation, c'est toujours un champ de bataille énorme, parce que tous les éditeurs ont envie de refourguer leur camelote aux enfants pour qu'ils prennent des habitudes au plus tôt.
Science Post, voici CollapseOS, le système d'exploitation de la fin du monde, un article de Johan Demeure.
Alors c'est un super sujet qui est vraiment génial, la collapsologie, qui veut dire hein ?
C'est l'étude de l'effondrement de la société, comment on pourrait justement réussir à survivre si demain tout s'arrête.
Donc il y a plein de manières de voir ces effondrements possibles, et il y a aussi plein de manières d'essayer de les contrecarrer. Et d'un point de vue informatique c'est compliqué, parce que si la civilisation s'écroule, qu'est-ce qui reste ? Eh bien il y a des gens qui creusent sur ce sujet-là, dans l'optique d'essayer de conserver un peu d'informatique, notamment en essayant de réutiliser des vieux microprocesseurs qui sont en très grand nombre un peu partout dans le monde, qui pourraient être utilisés pour être la base d'un système d'exploitation conçu pour eux.
Vivement la fin du monde qu'on essaye tout ça.
ZDNet France, justice, Gnome envoie un missile aux patent trolls, un article de Campbell Kahn.
Alors les patent trolls, ce sont des gens qui essayent de mettre des brevets sur des idées de logiciels.
Ils le font.
Notamment et surtout aux États-Unis, parce qu'en Europe, ça reste interdit, mais ils le font aussi. Donc la Gnome, c'est une fondation de logiciels libres et ils ont été embêtés par un troll des brevets et ils ont répliqué en allant en justice et pour essayer de lui créer des problèmes à leur tour. On suppose que ça devrait fonctionner parce que le gars en face n'a vraiment aucune base pour se défendre.
Mais du coup, la fondation Gnome a besoin d'argent parce que ça coûte cher malheureusement et là, il y a beaucoup de procès pour réussir à sortir de là. Donc ils ont fait une levée de fonds. Donc si vous voulez contribuer à aller atomiser un patent troll, n'hésitez pas, c'est le moment. Les Échos, le Sénat veut faire de l'ARCEP le gendarme des smartphones, un article de Raphaël Balenieri.
Bon alors, là aussi, c'est des choses un peu compliquées. On connaît l'Hadoopi. On sait qu'il y a pas mal d'institutions, d'administrations qui sont là pour essayer de contrôler les fréquences, pour essayer de contrôler les médias. Eh bien là, il est question de centraliser un petit peu tout ça dans une nouvelle institution, l'ARCEP, qui récupérait différents pouvoirs à droite et à gauche. Et là, eh bien, il serait question que dans leur pouvoir, ils aient des choses qui leur permettent de contrôler les téléphones portables.
Mais les contrôler sur quel point ?
J'ai été auditionné par l'ARCEP justement sur leur nouveau mandat. Et par exemple, l'exemple, c'était sur les banques et les téléphones mobiles, où aujourd'hui, on est obligé d'utiliser un téléphone Android sous telle version et verrouillé par les constructeurs. Et donc l'ARCEP a dit, bah, c'est pas normal, la liberté, c'est aussi de mettre ce qu'on veut. Et donc, ils veulent aussi légiférer éventuellement là-dessus, quoi. Le Monde Informatique, Pierre Baudraco devient coprésident du CNLL, un article de Véronique Oren.
Donc CNLL, c'est une association d'éditeurs de logiciels libres.
Oui, ça fait très longtemps qu'on n'en avait pas parlé.
Oui, donc là, ils reviennent un petit peu sur le devant de la scène. Et Pierre Baudraco, c'est quelqu'un qui a travaillé sur BlueMind, donc une solution de messagerie qui avait fait jaser. Il y avait eu des problématiques judiciaires. Donc c'est intéressant de voir, il est sorti de tous ces problèmes par le haut. J'espère qu'on va encore entendre parler de lui dans les mois qui viennent.
Et du CNLL, hein, qui est en gros un syndicat d'entreprise du logiciel libre.
France TV Info, l'article à lire pour comprendre Alicem, l'application d'identité numérique par reconnaissance faciale qui fait polémique. Un article de Alice Galopin.
La reconnaissance faciale, ça me plaisait bien comme sujet, donc on va arrêter d'en parler autant, mais ça n'empêche que c'est intéressant. Allez jeter un œil sur cet article-là, parce qu'il y a plein de choses qui tournent sur cette nouvelle application qu'on va probablement tous devoir installer un moment ou un autre sur nos téléphones. C'est embêtant. Il y a des problématiques de biométrie notamment, de vie privée en général, et puis d'accès aux institutions, aux administrations de l'État. Donc c'est un petit peu gênant.
Notre sujet du jour, c'est quoi ?
Ah, mais c'est le mot de passe, ça ! C'est admin d'admin ? Bah, je prends le contrôle de l'émission.
Quoi ? Ah bah non, mais comment t'as trouvé ? C'est pas possible. Malheureusement, le podcast est maintenant piraté par Nolwenn. On va parler piratage, c'est un sujet qui revient assez fréquemment. Et on peut peut-être déjà dire c'est quoi le piratage ?
Il y a la piraterie. Informatique.
Oui, la piraterie.
Effectivement, donc qui n'existe plus dans cette forme-là, dans nos contextes à nous. Oui. Et la piraterie, ça
existe ailleurs sur Terre, mais pas juste à côté de chez nous. Oui.
Voilà, pas sur Internet. Le piratage, c'est une manière de dire, voilà, les gens qui agressent nos systèmes avec leur informatique.
Ça recouvre pour plein de choses. Ça va être les gens qui vont effectivement essayer d'aller voler les données, but vraiment crapuleux, hein, se faire de l'argent derrière. Ça va être aussi toutes les nouvelles méthodes, les rançons logicielles. On a chiffré vos données et puis bah, vous allez tout perdre si vous ne payez pas. Le phishing, ça couvre vraiment beaucoup, beaucoup de choses.
J'ai un souvenir lointain de Sony qui, à l'époque, on gravait encore des CD audio, souvenez-vous, c'était il y a longtemps, avait mis ce qu'on appelle un rootkit dans un CD audio et avait donc mis des mouchards sur les ordinateurs de tous les gens qui mettaient le CD original, hein, donc légalement acheté dans le lecteur de leur ordinateur Windows et qui ensuite envoyait des informations. Et à l'époque, j'avais lu partout que c'était, selon les définitions officielles, du piratage. Il n'y a pas que les délinquants qui sont piratés.
Ah non, enfin, vrai que Sony était un délinquant dans le cas-là. Hein, parce oui, c'est vrai. Alors, taper dessus.
Il n'y a pas que les malfrats. Oui, ah non, ça ne marche pas non plus. Ok, alors, voilà. Donc quoi, le pirater en informatique, c'est s'introduire sur un système quelconque où on n'est pas invité, où on n'est pas censé être.
C'est ça, voilà.
Et dans ce sens-là, on peut tous être pirates.
Bah, on l'a tous été plus ou moins un jour, hein, essayer de casser le mot de passe d'un PC.
Moi, j'ai jamais fait ça.
Voilà, ou essayer de s'introduire sur la boîte mail du voisin. Mais,
alors,
voilà.
Accéder à un site web sans y avoir été invité et y rester.
Bah, y a plein de sites web où t'es pas invité. Enfin, moi, quand je vais sur le site de n'importe quel journal, je suis sur leur site web, mais ils m'ont pas invité. C'est un site public.
C'est un site public,
mais voilà, justement. C'est dans la partie qui va être privée. Alors, on a en tête une histoire de quelqu'un d'assez connu dans le milieu.
Bluetooth, qui avait trouvé un document de l'ANSES, donc l'Agence Nationale de la Sécurité de l'Environnement, des trucs comme ça, qui avait fait un article sur les nanotechnologies et qui avait mis un document qui était supposé être confidentiel en ligne. Et puis, bah, il avait été récupéré par Google. Des journalistes étaient tombés dessus sans forcément se rendre compte de ce qu'ils avaient dans les mains. Et puis, bah, l'ANSES les avait poursuivis en justice. Hey, les grands méchants pirates, vous nous avez piqué les données et tout ça. Et puis, bah, ça avait été un gros bordel parce que... Bah, comment est-ce que quelqu'un qui va sous Google peut se retrouver à faire du piratage volontairement ou autre ? Ça avait été le grand débat devant les juges. Et c'est vrai que c'est un énorme bordel, des fois, de savoir la limite entre qu'est-ce qui est du piratage, qu'est-ce qu'en est pas, qu'est-ce qui est de la malveillance, qu'est-ce qui est...
Parce que là, il était dans un espace où les portes étaient ouvertes.
Oui, c'est ça.
Oui, c'était l'image d'un juge qui avait été donnée. C'est si vous laissez les portes de votre maison ouvertes et que quelqu'un rentre dedans, il n'a pas le droit de rentrer dedans, même s'il peut le faire.
C'est ce qu'on lui avait reproché. Donc de savoir qu'il était dans un espace qui aurait dû être fermé et pourtant de continuer à tout explorer.
Oui, même si au début il ne le savait pas forcément, il a quand même dû y avoir un moment où il s'est rendu compte de ce que ça allait pas.
Oui, mais il y a quelques semaines, vous avez parlé quand j'étais pas là des moteurs de recherche. Or les moteurs de recherche, c'est bien ce qu'ils font. Ils vont partout où ils peuvent et puis ils suivent les liens et ils indexent tout ça. Donc si le moteur de recherche, et c'était le cas puisque Bluetooth avait trouvé ce lien sur Google... Pourquoi lui est condamné alors que finalement il y a un machin industriel automatisé qui est là pour aller dans toute l'arborescence ? On aurait dû condamner Google aussi.
Oui, mais lui c'est pratique.
Et lui il le fait de manière automatique, on suppose qu'il n'a pas des intentions derrière. Le pirate, lui on va vouloir faire un exemple et montrer aux autres humains qu'il ne faut pas faire la même chose. Donc l'exemple est important.
Donc ce qui veut dire que dès lors que c'est automatique, c'est pas grave. C'est l'intention qui compte, quoi, c'est ça ?
Ah, ben voilà, tu viens de lever le loup. Effectivement, dans le piratage, on peut supposer que l'intention est importante. Les accidents ou les résultats de techniques non désirées ne seraient pas forcément considérés comme du piratage.
Alors quand Facebook perd des millions et des centaines de millions de données personnelles, enfin les distribue abondamment à n'importe qui...
Ça, c'est de la débilité, c'est pas du piratage.
De l'incompétence.
Mais l'intention, elle compte pas.
L'intention était de protéger les données à la base, et c'est juste qu'ils ont mal pris, ils ont mal fait ce qu'il fallait, et ils les ont filés, voilà, ils ont filé à tout le monde, mais c'était plus des bourdes ou des erreurs, c'était pas volontaire, enfin en tout cas, a priori, c'était pas volontaire.
Je pense qu'ils en avaient rien à foutre.
La justice tranchera, mais effectivement, ils en avaient rien à foutre. Le piratage, c'est une vraie volonté d'aller nuire à la personne, d'aller l'escroquer, d'aller lui soutirer généralement de l'argent.
De profiter d'elle.
Et de profiter.
Bluetooth ne voulait que explorer le truc pour voir.
Ouais.
Et après, il a publié un truc, si ma mémoire est bonne, où il disait « Regardez comme c'est pas bien sécurisé ».
Oui, bah après, il avait un peu merdé en garde à vue, des choses comme ça. Donc, mais bon, c'était et compliqué
après,
quand même. Comme
a priori, aussi. On peut supposer que le juge va chercher quel est le profit qui en a été retiré. Et potentiellement, Bluetooth en avait retiré une certaine notoriété. Il s'était fait reconnaître parce qu'il avait publié sur le sujet.
Ouais. C'est un petit peu ambigu, puisque bon, on peut considérer que c'est pas vraiment nuire. Mais bref, de n'importe qui peut se faire pirater. Toi, Nolwenn, as-tu une expérience récente avec le piratage ?
Oui, enfin, c'était un piratage sans vraiment être un piratage. On a une utilisatrice, tout d'un coup, son adresse mail s'est mise à envoyer plein de mails d'une adresse email inconnue. Mais c'était elle qu'on était à l'origine. Du coup, on s'est retrouvé avec le serveur mail qui a été blacklisté de partout.
Donc, il a été mis sur liste...
Une liste noire.
Plus personne ne voulait parler avec lui.
On ne pouvait plus communiquer avec l'extérieur. Du coup... On a bloqué le compte, on a fait ce qu'il fallait et on a fini par avoir le fin mot de l'histoire. En fait, c'est une personne qui avait mis du code sur GitHub et il se trouve que dans ce code sur GitHub, il y avait des mots de passe. Et en 10 minutes, elle s'est faite pirater, entre guillemets, tout simplement parce que le mot de passe est accessible en ligne.
Donc du coup, les pirates aussi, ils font des moteurs de recherche, comme Google. Et donc c'est automatique. Donc leur intention n'est pas mauvaise, puisque c'est automatique.
Ah, effectivement. Alors maintenant, tu pourrais t'indiquer, ils l'ont fait de manière automatique, mais l'intention derrière était bien de profiter, d'aller envoyer du spam. Ils auraient pu aussi installer des Troyens, d'ailleurs c'est peut-être le cas, ils auraient pu installer des mineurs pour générer des bitcoins en profitant de la machine, et ils auraient volé quoi dans ce cas-là ? De l'électricité.
Alors c'est effectivement ce qu'on risque quand on se fait pirater, hein. Et souvent, les gens s'en foutent un petit peu. On dit oui sur une grosse structure comme un hôpital par exemple. Mais en tout cas, tout le monde peut se faire pirater, mais il y a plein de gens qui s'en foutent un petit peu. Parce que qu'est-ce qu'on risque quand on se fait pirater en tant qu'individu ? On peut avoir le rançon logiciel.
Ransomware.
J'y arrive pas.
On peut se faire rançonner.
Rançonner. Donc si on paye pas, qu'est-ce qui se passe ?
Bah rien en fait. C'est tout le problème. Si on paye pas, rien. Il y a deux types de rançons. Il y a les ransomware où effectivement les données vont être chiffrées sur le disque dur, donc on a tout perdu si on paye pas. Et si on paye, on peut potentiellement récupérer ces données, et généralement on les récupère parce que les pirates ont tout intérêt à ce que ça fonctionne et donc à savoir que si on paye on les récupère plutôt que de savoir que si on paye on récupère rien. Mais tout le monde dit ne surtout pas payer parce que ça incite ces gens-là à faire.
Mais pour plein de gens sur leur ordinateur, il n'y a rien de critique. Leurs photos de vacances, elles sont sur Facebook. Et puis ils disent c'est pas grave, j'achète un autre ordinateur.
Mais c'est vrai qu'ils
pourraient réinstaller le système.
C'est ça, mais c'est vrai que pour les rares personnes qui ont des données vraiment critiques, genre on a eu des cas de thèse ou autre, ou même d'entreprises qui ont eu toute leur comptabilité, par exemple, de paralysée, quand on n'a pas de backup, de sauvegarde, on va peut-être vouloir payer quelques milliers d'euros pour récupérer tout ça plutôt que de tout perdre.
Qu'est-ce qu'on risque d'autre quand on se fait pirater ?
Aujourd'hui, bizarrement, on risque plus grand chose. Il y a quelques années, les machines étaient vraiment détournées pour émettre du spam, où on essayait de récupérer les données, vos codes de carte bleue ou autre. Maintenant, c'est plus justement des rançons, c'est on va vous prendre votre disque dur.
Manifestement, ça envoie quand même du spam.
Mais ça envoie un peu de spam.
Il y
a toujours les vieux robots qui tournent pour envoyer du spam.
C'est ce qu'on appelle les botnets.
Les botnets. Mais le gros aujourd'hui, c'est surtout du phishing et du ransomware. Vous faire acheter des produits qui servent à rien, vous vendre soi-disant que vous avez été surpris sur une webcam et donc vous faire chanter si vous payez pas, on divulgue à tous vos contacts des vidéos compromettantes.
Quoi ? Tu veux dire que j'ai payé pour rien ?
Mais c'est vrai qu'au-delà de ça, maintenant, aujourd'hui, les données sont beaucoup moins utilisées, exfiltrées qu'il y a quelques temps. Voilà. Donc les risques sont quand même minimes.
La partie botnet, ça veut dire qu'il y a quelqu'un, un pirate, qui va faire des trucs plus ou moins légaux, comme envoyer du spam ou miner du bitcoin où il a besoin de puissance de calcul, qui va s'installer sur un maximum de machines et en fait qui a une stratégie du parasite, c'est-à-dire qu'il va l'utiliser. Notamment quand l'utilisateur ne l'utilise pas. Donc en gros, la machine va pédaler, donc consommer plus d'électricité. Et moi, j'ai déjà rencontré des gens qui disent « je m'en fous ». En gros, leur machine est parasitée, mais tant qu'elle marche, ça ne leur pose pas de problème.
Mais tu as utilisé le bon concept, parasitage. Mmh. Mais ça veut dire qu'on peut supporter un parasite. Et c'est le cas de plein d'organismes dans la nature. Ils supportent des parasites et ils arrivent à vivre, à survivre avec, et parfois même de manière tout à fait acceptable. Donc en fait, c'est juste la quantité de parasitage qui peut être gênante.
Oui, surtout que les GAFAM, c'est du parasitage d'une certaine façon aussi, quand on a de la pub de partout.
Aussi les effets de bord. Moi, j'en ai fait le cas, même si moi, je n'ai pas été piraté directement. Votre machine va être aussi infectée, va servir à relayer justement du spam ou à attaquer des services en face, et du coup vous pouvez avoir les flics à débarquer chez vous et à saisir votre matériel, parce que dans la tête de celui qui se sera fait attaquer, c'est vous l'attaquant, c'est pas celui qui vous a utilisé comme relais, et puis du coup c'est vous qui avez des emmerdes à savoir véhiculer de la pédopornographie, avoir contribué à du terrorisme ou autre, et là les conséquences peuvent être un peu plus chiant.
Alors, tu es en train de dire que finalement, on peut pas jeter aux orties la question de la sécurité informatique et se dire qu'on s'en fout de se faire pirater.
Ah bah non, ça c'est sûr.
Et donc, la conclusion ?
Donc la conclusion, c'est que la sécurité informatique, c'est quand même important. Se faire pirater, c'est pas bien, ne serait-ce que parce que ça peut servir à des gens vraiment pas recommandables et que derrière, il peut y avoir des vrais drames humains.
Et puis de faire gaffe à vos données, hein. Le jour où vous avez tout perdu, vous serez dans la merde.
Pensez aux sauvegardes.
Oui, c'est encore la meilleure précaution.
À la semaine prochaine.
Salut.
Salut.